Salut jeunes gens, j'espère que tout va bien et que la journée s'est bien passée. C'est Seb au micro, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ciné Nantisme et Décompté. C'est le 17e aujourd'hui, un numéro où on va placer le curseur sur le mois de juillet 1998. Le principe de l'émission, vous le connaissez. On va essayer de replonger ensemble dans l'esprit de l'époque, du rock, des news et de la lecture. Et franchement, en ce mois de juillet 1998, il y avait de quoi être heureux et pas que pour le soleil et la Coupe du Monde de foot. Vous verrez, il y avait plein de bonnes choses. Je voulais profiter de ce début d'émission aussi pour vous remercier tous pour les bons retours que j'ai reçus ces derniers temps. Ça fait plaisir et ça motive. Vous pouvez donc continuer sans modération. On va y aller tout de suite en musique avec une petite doublette, c'est la tradition de l'émission. Dans l'ordre, Braid et The New Nathan Detroit de l'emocore typiquement de DC. Ça fleure d'ailleurs bon les Inner Ear Studio. Et ensuite, dans un tout autre style, juste après, les Rockets From The Crypt. Il ne nous manque plus pour lancer cette émission qu'une chose, c'est le fameux jingle de Robbie. Allez, c'est parti mon gars.
Yeah!
Ça c'est du rock'n'roll, les natifs de San Diego, Rocket from the Crypt. C'est la première fois que je vous en programme dans Si les 90s, un groupe d'hyperactifs, puisque durant les 90s, si j'ai bien compté, ils ont sorti la bagatelle de 9 albums. Cet extrait c'était Eye on You, ça sort de l'album du même nom. Ça sort de l'album RFTC sorti sur la major Interscope juste avant l'été 1998, un titre que vous avez peut-être entendu aussi dans la série The Sopranos. Troisième titre de l'émission et troisième genre musical abordé, c'est aussi ça la marque de fabrique de l'émission, un groupe majeur de la scène hip-hop ricain des 90s, les Blambecs de Beastie Boys avec Remote Control. C'est un extrait de leur album Hello Nasty, sorti en juin 1998 et qui était donc encore tout chaud au mois de juillet, qui nous intéresse aujourd'hui. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, après l'énorme carton de Hill Communication, c'était un sacré challenge que devaient relever les Beastie Boys avec ce nouvel album. Et au final, ben moi je trouve qu'il s'avère quand même un cran en dessous Hill Communication, mais et que de toute manière, il restait un cran au-dessus de la concurrence. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un programme à suivre, et là tout de suite, c'est l'heure des news d'époque. Et on commence les news de juillet 98 avec du foot. évidemment. Désolé pour tous ceux qui détestent ça, mais on va largement en parler dans cette page news. Avec le 8 juillet, Lilian Thuram qui envoie la France en finale de la Coupe du Monde grâce à un doublé contre la Croatie. 8 juillet, sport toujours, en tout cas à la rubrique fait divers avec le soigneur de l'équipe Festina, l'équipe de cyclisme qui est arrêtée en possession de plus de 400 flacons de produits dopants et stupéfiants. Le 11 juillet, c'est l'ONU qui lance un appel à lutter contre la famine au Sud-Soudan, famine qui menace plus de 2,5 millions de personnes. Le lendemain, 12 juillet 1998, la France remporte sa première étoile sur le maillot de son équipe de foot en battant en finale de la Coupe du Monde le Brésil 3-0. Le 13 juillet, c'est la Russie qui est au bord de l'asphyxie financière et qui obtient l'aide du FMI et de la Banque mondiale. 17 juillet, il y a un énorme tsunami sur les côtes nord de la Nouvelle-Guinée, un tsunami qui fait plus de 2200 morts. Le mois de juillet 1998, c'est aussi le mois du lancement de Météor, la première rame de métro parisienne sans chauffeur. C'est le mois de la visite du très contesté président syrien Hafez el-Assad à Paris. Et c'est également le mois de l'enterrement en grande pompe à Saint-Pétersbourg du tsar Nicolas II et de sa famille, assassiné 80 ans plus tôt par les révolutionnaires russes. Le groupe qui vient maintenant, il n'a rien à voir avec les révolutionnaires russes, ni avec la présidence syrienne et encore moins avec le métro parisien. Par contre, il a beaucoup à voir avec la scène punk rock britannique et le label californien Fad Records, puisqu'il s'agit de Snuff avec Take Me Home, un titre du très bon Tweet Tweet My Love qui tournait souvent sur ma platine en cet été 1998.
Bye. Combien t'en as mis?
4.
4? Eh, ça fait beaucoup pour un petit kleps.
J'ai demandé de suivre ta gonzesse et je l'ai fait. Et la vérité, c'est que je l'ai trouvée chouette.
He thought that he can make it by being bad.
Ce titre, c'est un peu la curiosité du jour. Je pense que vous ne devez pas être bien nombreux chez vous à avoir reconnu Bully Rag, un groupe de Liverpool qui officiait dans ce qu'on appelait de la fusion. Ça mélangeait allègrement metal, rap, reggae, dub, le tout assaisonné de quelques sonorités indianisantes. Leur album de 98, Songs of Praise, était bien foutu, mais voilà. Ça ne donnait que 50 entrées lors de leur passage à l'Elysée-Montmartre à Paris, et ça, ben, ça s'appelle un bide. There's a mark on my back from my last heart attack. Whiskey mouth, bottleneck, card stack. There's a source, of course, she says. It's whispering at night like air leaks from a tire. The truth outruns your lies if you jump track. Thinking it's over, remember sooner or later it's only shoulder. Sooner or later it's only shoulder. Sooner or later it's only shoulder. I got a big mechanic mouth, resonates with sound. I forked metallic tongue with what it's found. Spin my head around for a different view. You can't look straight ahead to see what's in front of you. You jump track thinking it's over. Remember sooner or later it's only a shoulder. There's a mark on my back from my last heart attack. A whiskey mouth, bottleneck, card stack. There's a source, of course, she says. It's whispering at night. Air leaks from a tire. The truth outruns your life. Thinking it's over, you jump track. Thinking it's over, you jump track. Thinking it's over. Remember, sooner or later, it's only a shoulder. Sooner or later, it's only a shoulder. Shoulder. Sooner or later, it's only a shoulder. Tout de suite là, c'est l'heure des news musicales, elle aussi d'époque. Et pour ces news musicales d'époque, on commence avec Machine Head, les métalleux californiens qui venaient d'embaucher leur nouveau guitariste pour remplacer le partant Logan Mader. Ce nouveau gratteux, il s'appelait Harold Luster et il enregistrera au final que cet album Burning Red avec Ross Robinson et il dégagera presque aussi vite du groupe. Un gars donc qui n'a pas laissé une très forte image forcément chez les fans. Ça bougeait aussi sur le siège éjectable de Pearl Jam. Le poste de batteur a encore changé puisque c'est Jack Irons qui quitte le groupe, incapable de suivre le rythme des tournées, et il est aussitôt remplacé par l'ex Soundgarden Matt Cameron. Scott Weiland, lui, était déçu des ventes de son album solo 12 Bar Blues et il envisageait son retour au sein de Stone Temple Pilots. Les petits jeunes de Silverchair, en juillet 98, travaillaient avec Nick Loney sur l'enregistrement de leur troisième album Neo Ballroom. Idem pour Seaweed, en studio avec Adam Casper pour les sessions de leur sixième album. Les Anglais de Skunk Anansie, eux, venaient de signer sur Major, plus exactement chez Virgin. En ce mois de juillet 98, il se murmurait aussi que Jason Newsted de Metallica jouerait de la basse sur quelques titres du prochain album de Sepultura, le premier album de Sepultura post-Max, et au final, Jason Newsted ne jouera que sur Hatred Aside. Du côté de New York, Keith Caputo, le chanteur de Life of Agony, avait décidé de quitter le groupe pour se consacrer à une carrière solo, et il était remplacé par l'ancien Ugly Kid Joe Whitfield Crane. Voilà pour l'actu musicale de ce chaud mois de juillet 1998, qui était finalement plutôt calme du côté des news. Tout de suite, retour de la musique avec un groupe que j'affectionne particulièrement, c'est Shelter, groupe de Krishnakore de Ray Capo. Je vous en ai déjà passé dans l'émission et j'en repasse aujourd'hui, tout simplement parce qu'en juillet 98, c'était l'actu. Revelation Records venait en effet de commercialiser le très très bon EP du groupe Quest for Certainty, qui était sorti initialement en 92. Et ce petit mini-album, c'était simplement, à mon avis, le meilleur disque qui est sorti Shelter. Il n'y avait donc aucune raison que je vous prive de cette pépite. Voici Shelter avec Quest for Certainty. Et c'est si les 90s m'étaient comptés dans le poste. On continue d'éplucher cette grosse page musicale de juillet 1998 avec les unes de la presse. On commence avec le plus gros titre, Roxanne numéro 60 dans les kiosques, avec en couverture corne et un gros dossier cornologie dédié aux Deftones, Limp Bizkit, Cold Chamber, Cold et Orgy. Il y avait également de beaux articles sur Louise Attack, Smashing Pumpkins, Our Lady Peace et Fear Factory. Mon préféré, c'était Rage. Là, c'était le numéro 38 qui était dans les kiosques avec Beastie Boys en couverture. Et un article très très sympathique et qui nous racontera les difficultés qu'a eu la rédaction de Rage pour tenter d'interviewer les Golden Boys du hip-hop américain, les Beastie Boys donc. Une quête qui se soldera finalement sur un échec, mais avec un article à la clé. Korn était aussi à l'honneur pour la sortie imminente de Follow the Leader, leur troisième album. Article également sur Fear Factory, rencontré lors de l'enregistrement de leur troisième album. Au sommaire également de Rage, Rancid, Vision of Disorder, Unsane et un bon article sur le réalisateur Joe Dante. Du côté de Rock and Folk, le vétéran des magazines de rock numéro 371 en kiosque pour le mois de juillet 1998 avec les fils Lennon en couverture, Sean à gauche, Julian à droite et cette affirmation, Lennon est vivant. Pour le reste du sommaire, on trouve Rancid, Noir Désir, Lydia Lunch et les Hurricanes de Belfort. Un petit coup d'œil maintenant sur la presse métal avec le Hard Force numéro 35 et Soulfly en couverture sous-titré Droit au but, on le sait. Max Cavalera est un grand fan de foot, couverture donc tout à fait logique avec l'actu Coupe du Monde. Du côté de Hard & Heavy, on prend le contre-pied total à Hard Force avec Fear Factory en couverture. Du sommaire finalement assez classique pour ce mois avec Korn évidemment mais aussi Anthrax. Puis Monster Magnet et Crowbar. Et pour terminer, Hard Rock Magazine avec Manowar. Une couverture assez originale avec un très long article sur la route avec les Warriors de Manowar. Tout un programme. On va jeter un petit coup d'œil rapide sur les bacs des disquaires avec pas mal de trucs sympathiques, notamment l'album de Fear Factory Obsolète. Comme je vous l'ai dit juste avant, donc leur troisième album. Un petit cran en dessous quand même, l'incontournable de Manufacture de 1995. Il y avait également l'album très clashien de Rancid, Life Won't Wait, enregistré à Kingston, en Jamaïque. Le volume 8 de Treatise Real, 8e album de Anthrax. Et si vous êtes fan de la période John Bush, eh bien, il vous a certainement plu. On trouve également un album qui est hélas est passé complètement inaperçu en France. Pourtant, le groupe est culte, les Buffalo Tom avec Smitten. Toujours au rayon un petit peu indie rock, on peut également évoquer les Canadiennes de Bernacle Ladies. On peut également évoquer les Canadiennes de Bernacle Ladies avec Stunt. Je pourrais vous dire également un mot du côté du rock américain avec les Seven Mary Three avec Orange Avenue, un groupe que j'adore, les Seven Mary Three du gros rock à l'américaine. Ça c'était leur deuxième album sur la major Atlantic. Dans le même genre et pas très éloigné, les Candlebox avec Happy Pills. Eux c'est leur troisième album. Un groupe qui mériterait d'être bien réhabilité parce que franchement il était tellement décrié à l'époque. Candlebox et Happy Pills, à mon avis cet album, vous devriez aller rejeter une petite oreille là-dessus. Vous verrez, ça a plutôt bien vieilli. Et puis pour terminer, je vais vous conseiller plus particulièrement le Harvey Danger, Where Have All the Merrymakers, un album de ce mois de juillet 1998. Devenu culte, boosté par son single Flagpole Sita, un album qui, malgré les années, n'a pas pris une ride, ce qui n'est pas le cas de tous les albums de l'époque. C'est un album qui fait également bien plaisir par la variété des styles qui y sont abordés. Ça va de la power pop grand luxe au titre un petit peu punkisant et bien rentre dedans. Et puis également des belles ballades bien touchantes comme la merveilleuse Jack the Lion. Et puis enfin, je vous conseillerai tout particulièrement ce disque de Harvey Danger parce que ce groupe aurait mérité plus de considération, en particulier de son label, puisque son label de l'époque, qui était, si je me trompe pas, Slash Records, a jeté tout simplement le disque suivant à la poubelle. Il s'appelait King James Version. Il n'est sorti pratiquement que un an après son enregistrement fin 1999 et sans le moindre soutien du label, ce qui fait que Harvey Danger a tout simplement sombré dans l'anonymat le plus absolu et c'est bien dommage. We'll be right back.
Salut, c'est Ted.
On s'est pas revu depuis.
Depuis la boum, je parie.
Calculé du tout cet enchaînement, mais je vous ai calé d'affilée deux groupes de Seattle, des groupes que je qualifierais de nouvelle vague Seattle, autrement dit deux jeunes groupes apparus dans la capitale du grunge, mais quelques années après le grand Ramdam. C'était Harvey Danger d'abord et Flagpole Sita, et juste après Candlebox et Happy Pills. Habituellement, à l'approche de la fin de l'émission, on parle cinéma, mais aujourd'hui on va faire une petite exception, et pour évoquer ce mois de juillet 1998, j'ai décidé de revenir sur un bouquin sorti chez Pocket Collection Terreur, un bouquin que je me souviens de ne pas avoir lâché cet été-là, et ce bouquin c'est Walhalla de Graham Masterton. Il s'appelle The House That Jack Built en version originale, et il raconte l'histoire d'un avocat new-yorkais qui s'appelle Craig Bellman, un type un petit peu imbu de sa personne, qui est sorti en fait traumatisé d'une terrible agression, qui est d'ailleurs racontée dans le premier chapitre de Walhalla. Ce type a besoin en fait de se mettre au vert, et il décide de partir avec son épouse Effie dans une vallée reculée de l'Hudson, vallée où il découvre une vieille villa victorienne qui est complètement abandonnée, et le couple en tombe immédiatement amoureux et décide de se lancer dans la réfection en fait de cette vieille maison. Il ne sera à ce moment-là pas du tout arrêté par le fait qu'il y a résidé dans les années 20 un milliardaire machiavélique du nom de Jack Belias, milliardaire qui s'est d'ailleurs suicidé dans cette maison en 1937. Et vous vous en doutez, ben en fait, très vite, ce qui se passe, ben, c'est que des phénomènes paranormaux commencent à se produire et le Craig, l'avocat, devient lui de plus en plus inquiétant, un petit peu comme si le fantôme de Jack Belias venait le posséder. Alors avec Walhalla, Graham Masterton explore le thème de la maison maudite. C'est un thème archi classique dans la littérature horrifique. Cela dit, ce livre est prenant et envoûtant, en tout cas autant que la demeure qu'il met en scène. La tension va crescendo, mêlant ésotérisme, meurtre, démons du sexe et du jeu. Les personnages sont bien brossés et les scènes les plus extrêmes sont d'un réalisme à vous filer des sueurs froides, ce qui est plutôt bon signe pour un livre d'épouvante. Alors ensuite, je n'ai pas eu l'occasion de lire d'autres bouquins de Graham Masterton, mais je dois dire que celui-là est très réussi. Je vous le conseillerais donc tout particulièrement. Le seul souci, ben, c'est pour le trouver, puisqu'en fait, il n'a jamais été réédité. Alors en 2015, ben, la seule manière de pouvoir vous le procurer, ça va être les bacs d'occasion chez les libraires, et puis peut-être aussi les sites spécialisés sur le web.
Yeah.
l'instant, c'était l'avant-dernier titre de ce 17e épisode de Silly 90s. C'était les métalleux de Anthrax avec Catharsis, un extrait de volume 8, leur 8e album comme son nom l'indique, sorti en juillet 1998. J'espère que vous avez passé un bon petit décrochage spatio-temporel en ma compagnie. On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude sur CFM Rhodes, la radio à l'esprit rock, et la petite mais costaud Kicking Radio, la web radio qui a tout d'une grande. Grosse bise à tous, je vous laisse avec Rancid, à dans 2 semaines. I got some more times to bumps upon the subway. It's a long way to go to get out to Leicester Square. A hard line, so one you gotta cross, the one you gotta cross to get you anywhere. Might that's on his way to pay best vindication. A fist that cuts me down in his backseat education. The epos acting loud, then enemy stations shout. It's crystal clear and it's a grip for bones to become broken. To get to Leicester Square, a hard line.